Tage heute den Kalendernachfeast.
Puisque selon le calendrier, nous avons la Pentecôte et que d'une manière particulière, nous pensons à l'effusion du Saint-Esprit. Et nous chantons d'un livre de cantique qui porte le titre Louange pentecôtiste, Louange de la Pentecôte. Ce livre de chant a apparu après l'effusion du Saint-Esprit il y a un siècle d'ici. Et nous voulons de ce cantique, de ce livre de cantique encore ensemble, chanter le cantique 128, et cela dans la prière, dans le recueillement. Nous pouvons rester debout et de tout notre cœur chanter. Cantique 128. Peut-être qu'il n'est pas connu de tous, mais chantons de tout notre cœur. Le cantique 128, la puissance qui autrefois revêtit le jour de la Pentecôte le premier troupeau, qui veillait et priait dans la prière devant Dieu ensemble d'un commun accord. La même puissance est encore aujourd'hui le Saint-Esprit. Oh, crois-le. La puissance du Saint-Esprit est encore la même aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit, elle prend possession de nous. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants, très reconnaissants à Dieu le Seigneur de ce que nous pouvons ici être rassemblés aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sera un jour particulier. Nous avons entrepris un voyage en Israël et nous avons été bénis et voulons très brièvement donner un compte rendu de ce que nous avons vu. Et ensuite, les jeunes, oui, ont aussi, dans plusieurs rencontres de jeunes, expérimenté les bénédictions de Dieu. Et nous sommes particulièrement reconnaissants de ce que nous avons, le bâtiment à Lausbourg. Ce bâtiment appartient à la Suisse et à l'Allemagne, nous appartient tous. Et là, tous les jeunes et en fait toutes les réunions de jeunes peuvent aussi avoir lieu là-bas. Nous sommes très particulièrement pour le frère Helmut Miskis qui ne fait pas seulement l'école de dimanche mais qui s'occupe aussi et qui a dans son cœur les jeunes en général, la jeunesse. Oui, que Dieu bénisse toute la jeunesse qui est aujourd'hui pour la première fois ici. Levez les mains s'il vous plaît, puis-je demander qui est aujourd'hui pour la première fois. Levez bien les mains. 1, 2, 3, 4. Je m'attendais à plus qui sera ici pour la première fois. Mais soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus. Que Dieu le Seigneur puisse richement bénir ce jour, qu'il puisse en faire un jour de Pentecôte, un jour particulier où ensemble nous expérimentons la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, personnellement, consciemment, par la grâce, expérimenter la puissance de Dieu. Encore brièvement, concernant le voyage en Israël que nous avons entrepris, c'était cette fois-ci plusieurs frères et sœurs qui étaient venus de la Suisse. Et ma question est la suivante, est-ce peut-être les deux frères qui étaient de la partie, s'ils veulent dire quelque chose rapidement, que ce soit le frère Bert ou le oui ou bien alors oui. S'il vous plaît, je vous en prie, venez, frère Kermar, viens et nous dis que, dis-nous quelque chose. Oui, le frère Bert pourrait aussi dire quelque chose. Oui, oui, bien-aimé frère et soeur dans le Seigneur, c'était un voyage très béni que nous avons pu entreprendre. Nous voulons maintenant encore remercier notre Seigneur, remercier le frère Franck de ce que nous avons pu entreprendre ce voyage. Je voulais simplement mentionner quelques endroits qui m'ont touché particulièrement le cœur. D'abord, la région donc du lac de Nazareth, Génézareth, en Galilée, c'est une région merveilleuse. Et nous avons pu penser que le Seigneur a marché là, sur ce lac. Ensuite, l'endroit où le Seigneur Jésus a baptisé au Jourdain et à Jérusalem, pardon, où il fut baptisé au Jourdain. Ensuite, nous étions à Jérusalem, nous avons vu le sépulcre vide où Jésus a été ressuscité. Et il est écrit là-bas, il n'est plus ici, il est ressuscité. Nous avons pu aussi voir, ils ont imité donc la tente d'assignation. Nous avons vu aussi l'arche de l'Alliance, l'imitation. Nous avons pu nous imaginer comment est-ce que c'était. Et la tente est au milieu du désert là-bas. Elle a été refaite, mais bon, la différence, c'est que les pieds ne sont pas comme c'est écrit dans la Bible, elles sont seulement comme ça, en tôle. Mais je voudrais, pas en argent, mais en tôle. Mais je voudrais remercier le Seigneur et remercier le frère Franck pour les bénédictions. Oui. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'était un voyage merveilleux que nous pouvions voir. Nous avons été bénis et tous les jours, nous avons été remplis des rappels, des témoignages de ce que nous pouvions lire dans la Bible. Nous pouvons le voir là-bas et nous avons pu le relire, ce que nous voyons dans la Bible. Nous l'avons expérimenté, nous étions dans la région, nous avons été remplis de cet esprit, nous avons aussi vu le peuple d'Israël. C'était merveilleux de voir les Juifs. Nous avons aussi eu des expériences merveilleuses avec le Seigneur, aussi les uns avec les autres. Nous avons eu des expériences merveilleuses ensemble. Et je voudrais aussi remercier de tout ce que nous avons pu entreprendre, d'aller dans ce pays et de le voir. C'était merveilleux. Les paroles me manquent. J'ai encore envie de repartir en Israël. J'ai déjà la nostalgie. Comme déjà je l'ai dit personnellement, ça a été difficile pour moi de reprendre les habitudes quotidiennes, car ça a été un temps très béni là-bas. Je voudrais remercier le Seigneur, remercier frère Franck. Je voudrais remercier aussi la sœur Fleck pour toute l'organisation. Comment est-ce que tout a été merveilleusement organisé? C'était vraiment, du début jusqu'à la fin, la bénédiction du Seigneur en toutes choses. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, le voyage était très puissant, en trois langues. Nous étions 102 personnes en tout. Et maintenant, j'ai la question. Le frère Oupen, il pourrait aussi dire quelque chose, peut-être très brièvement, quelques phrases. Oui, sûrement qu'il y en a encore d'autres ici, mais c'était un voyage harmonieux et béni. Oui, dis-nous quelques mots. Oui, bien mes frères et sœurs, c'était vraiment merveilleux en Israël. Moi aussi, j'ai la nostalgie. C'était béni et c'était une expérience merveilleuse de voir le pays béni du Seigneur, son peuple, son pays. C'était merveilleux. Au lac de Génézareth, ensuite en descendant au Jourdain et aussi la mer morte, c'était aussi merveilleux. Ensuite, Elat, nous avons fait l'aller-retour et je crois vraiment que le point culminant était bien sûr dans la Sainte ville à Jérusalem, de pouvoir y être et de voir Golgotha, le lieu du crâne, le sépulcre, de voir où le Seigneur était. C'était vraiment merveilleux de voir l'endroit où il mourut pour nous. C'était vraiment touchant et émouvant. On ne peut pas l'exprimer avec des paroles. Et je voudrais encore dire merci au Seigneur et merci à Frère Franck. Merci au Seigneur de ce que c'était si merveilleux. Merci. Oui, il s'est laissé baptiser au lac de Génézareth. Oui, en tout, nous avons pu baptiser 8 personnes, 6 au lac de Génézareth et 2 encore à Jérusalem. C'était accompagné de bénédictions visibles qu'on pouvait ressentir personnellement. Et à chaque occasion, nous avons lu la parole qui était adéquate à la région, que ce soit au lac de Génézareth. Nous avons lu les versets bibliques où le Seigneur a calmé la tempête, que ce soit quand nous étions à la mer morte. Nous avons lu dans Ézéchiel que là où en ce moment il n'y a aucune vie, la Bible dit dans Ézéchiel que les pêcheurs vont jeter leur filet et pêcher beaucoup de poissons dans la mer morte. Tout cela est prédit à l'avance. Et tout va s'accomplir tel que la Bible l'a annoncé à l'avance, la sainte parole de Dieu. Et aussi à la mer Rouge jusqu'à la frontière égyptienne. Et aussi là, nous avons lu la parole merveilleuse que Dieu, le Seigneur, a divisé l'eau et que les eaux se tenaient comme une muraille à droite et à gauche. Et le peuple d'Israël, au sec, est allé comme sur une autoroute. Quand on se tient à de tels endroits et qu'on lit des saintes écritures, les différents versets, et qu'on peut dire, c'est ici que cela s'est passé, c'est ici que Dieu s'est révélé et a accompli sa parole. Nous avons vraiment, à chaque occasion, lu la parole, que ce soit aussi sur la montagne des Oliviers, la chose qui n'était pas ainsi, c'était donc le chemin de la montagne des Oliviers. Et on va donc, en fait, on peut descendre jusqu'à dans le jardin de Gethsémané. Et ce chemin a été séparé. L'Église catholique a construit une grande église et ils ont même pris l'endroit et on n'a plus le droit d'entrer là-bas. Mais nous avons quand même remercié le Seigneur. Il y a seulement un chemin qui existe là. L'Église catholique a confisqué donc le jardin de Gethsémané. Mais nous pouvions quand même lire les versets et dans les différents versets, dans les différents endroits, lire les versets adéquats. Et comme déjà le frère Roubel le mentionnait, en ce qui concerne le sommet de Golgotha, la colline, c'est vraiment puissant de voir qu'on peut lire dans Jean 19 du lieu du crâne qui était à l'extérieur des portes de la ville. Et qu'ensuite, il est écrit que pas loin de ce lieu du crâne se trouvait un sépulcre. Et que dans le sépulcre, dans un jardin. Et que dans le jardin, il y avait un sépulcre. Et quand on est là-bas et qu'on peut constater la description et voir qu'elle est telle que la Bible dit, et que nous pouvions là-bas chanter « Glorieux Golgotha, merveilleux Golgotha », c'est au-dessus de toute mesure béni. Et ensuite, alors que nous regardions, donc nous tenions en face du lieu du crâne, et on peut vraiment voir le lieu du crâne, ressemble vraiment à un crâne. Et à peu près 120 mètres de là, il y a déjà le jardin du sépulcre, et nous avons pu là-bas dans le jardin tenir une petite réunion. Le Seigneur va faire toutes choses bien avec l'Église épouse et aussi avec Israël. Nous avons et nous pouvons prendre cela de la parole d'introduction telle qu'elle est écrite après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous obteniez ce que vous êtes promis. Dieu a un peuple qui se soumet à sa volonté, qui ne prie pas seulement que ta volonté soit faite, mais qui dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté » et qui l'a fait aussi. Je voudrais ici, sans faire de critique, dire la chose suivante. Maintenant, en Israël, ils ont ouvert au Jourdain un autre endroit pour baptiser, un autre baptistère. Et tous vont là-bas. Tous vont là-bas. Ça n'a pas d'importance comment est-ce qu'ils baptisent. Et imaginez-vous, quoi que dans le pays de la Bible, il y a eu des hommes qui, eux-mêmes, dans le Jourdain, sont allés et eux-mêmes se sont immergés et sont ressortis de l'eau et pensaient qu'ils sont baptisés au Jourdain. Ils se sont eux-mêmes allés se baptiser eux-mêmes. Il y en a d'autres qui sont allés baptiser les autres dans les titres de la Trinité, etc. C'est une catastrophe, mais c'est une grande grâce de Dieu qui nous a été faite de reconnaître la parole et la volonté de Dieu. Elle nous a été révélée par la grâce de Dieu d'avoir simplement la grâce de revenir en toutes choses aussi en ce qui concerne le baptême d'eau au modèle de l'Église primitive. Et le commencement était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte fut le fondement de l'Église du Nouveau Testament. 120 s'étaient rassemblés et étaient là alors que l'Église du Nouveau Testament, que le Seigneur sur la croix à Golgotha avait racheté, c'est là qu'ils sont venus se rassembler et ils ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Ils se sont rassemblés pour expérimenter cela, tel que le Seigneur l'avait annoncé à l'avance dans Joël du premier chapitre jusqu'au cinquième verset dans Joël. Et là, cela s'est passé. Ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est la promesse dans le prophète Joël qui s'est accomplie dans Actes des Apôtres. Et Pierre pouvait dire dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, directement, il pouvait même mentionner le prophète Joël et dire à haute voix, clairement, et rendre ce témoignage. Ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a annoncé à l'avance. De Actes des Apôtres, le chapitre 2, ici il est écrit directement à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ensuite, l'apôtre continue son exposé et décrit comment est-ce que tout devait s'accomplir tel que c'était promis. Et il y avait eu aussi des gens à Jérusalem de 16 différentes nationalités rassemblées et tous étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Aussi Paul l'écrit dans ses épîtres que la fête de la Pentecôte, je veux la fêter à Jérusalem. Ou bien alors, oui, la fêter à Jérusalem. Et ensuite, nous lisons à partir du verset 17, peut-être le verset 16 d'abord, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 18. Donc nous pouvons continuer à lire. Pierre a même fait mention de ce que sera la fin du temps du salut et le commencement du jour du Seigneur. Au verset 20, il dit ici, dans Actes des Apôtres 2, le verset 20, Actes des Apôtres 2, le verset 20 maintenant, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. » Auparavant, il était écrit deux fois au pluriel, dans les derniers jours, et ensuite au singulier, parlant du jour du Seigneur. Les derniers jours sont les derniers 2000 années qui ont commencé autrefois et maintenant vont vers leur fin. Et le dernier jour au singulier est le jour du Seigneur et tel que Dieu a accompli, a achevé la création naturelle le septième jour et s'est reposé de son œuvre. C'est ainsi que Dieu achèvera toute l'œuvre de la rédemption et dans le septième jour, nous serons dans le millénium. Le dernier jour de mille ans dans le millénium, où Satan sera lié et où vraiment ce sera la paix et la joie pure sur terre. Dieu a un plan merveilleux. Aussi, je voudrais ici le mentionner que à Jérusalem, aussi particulièrement tel que vous l'avez entendu, dans la chambre haute, là où le dernier souper avait eu lieu, là où l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Et pourquoi? Parce qu'il est écrit que la parole du Seigneur sortira de Jérusalem et la loi de la montagne de Sion, ou alors l'enseignement. C'est ainsi que le Seigneur l'a écrit, l'a laissé écrire dans Ésaïe chapitre 2 et aussi dans Michée chapitre 4. Mais ici, nous avons d'autres groupes, nous avons vu d'autres groupes et entendu d'autres groupes. Tous chantent. Où est-ce que c'était? Il y avait eu un groupe qui avait chanté. Tous disent, tout nouveau, le sang de l'agneau nous purifie. Il y a plusieurs groupes qui vont faire une visite à Jérusalem. Et nous avions aussi rencontré des personnes qui chantaient ce cantique. Nous chantons les mêmes cantiques. Et malgré tout, il y a une grande différence. Et c'est justement ce qui me touche et m'occupe. Que Dieu, par sa grâce, à la fin du temps de la grâce, rassemble, appelle son peuple, son Église, les appelle à revenir à lui, à revenir à être en accord parfait avec lui et sa parole, pour que justement, après avoir accompli sa volonté, nous expérimenterons personnellement l'enlèvement, Mais il faut, pour pouvoir accomplir sa volonté, revenir à lui et à sa parole. Et à ce moment-là, nous pensons aussi à Marc chapitre 7, où il est dit, c'est en vain qui m'honore, qui me vénère, parce que leur cœur est éloigné de moi, et ce sont des ordonnances d'hommes qui sont enseignées. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, nous ne sommes pas ici pour critiquer, nous sommes ici pour placer la vérité sur le chandelier. Nous sommes ici pour pouvoir dire, et cela au nom du Seigneur, que avant le retour de Jésus-Christ, il faut que dans l'Église du Dieu vivant, tout soit rétabli dans l'état qui existait dans l'Église primitive. C'est ainsi que Pierre, dans les deux prédications, l'a dit, dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 17 de notre Seigneur, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu, par la bouche de ses serviteurs les prophètes, a annoncé à l'avance. Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, acceptez cela avec un cœur reconnaissant. Nous sommes enfants de la promesse et croyons chaque promesse que Dieu a donnée. Et cela nous diffère vraiment de tous les autres. Comme déjà cela a été mentionné, tous baptisent comme cela leur plaît, ou bien alors comme cela est pratiqué dans leur dénomination. Mais la vraie Église de Jésus-Christ, elle repart au modèle de l'Église primitive. Elle repart à la première prédication qui fut tenue à Jérusalem sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pierre, le jour de la Pentecôte, le jour du fondement de l'Église du Nouveau Testament, s'était crié en disant « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si, sous la même inspiration et la même conduite du Saint-Esprit, j'ai la grâce de me tenir, alors je vais, s'il vous plaît, prêcher la même parole. Je ne pourrais pas prêcher un autre évangile si je suis sous la même inspiration. Mais je vais devoir prêcher le même évangile de Jésus-Christ, tel que d'une bouche mandatée, en vertu d'un mandat divin, cette parole a été prêchée. Bien, mes frères et sœurs, disons les choses toujours de nouveau. Ça, c'est la chose extraordinaire que Dieu dans notre temps fait. Aussi en ce qui concerne les articles qui partout sur la Pentecôte sont écrits. Je viens d'en lire un. Ils disent que le Saint-Esprit serait la troisième personne de la divinité. Et ici, nous tenons et nous disons, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il vous plaît, écoutez exactement. Ce seul vrai Dieu éternel vivant s'est personnellement révélé. Le Père s'est personnellement révélé dans le Fils et ensuite par le Saint-Esprit, pas une autre personne, mais la même personne révélée en tant que le Dieu Tout-Puissant dans son Fils et ensuite dans l'Église par le Saint-Esprit. Et cela nous diffère de tous les autres. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous voyons la différence? Constatons la différence dans ce qui est dit. Et notre Seigneur pouvait dire, n'est-ce pas, « Celui qui me voit a vu le Père. Il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit est Dieu à nous. » Alléluia! Dans un corps de chair, de nouveau, dans le croyant, pour que l'œuvre de la rédemption puisse avoir lieu parmi nous. Et ensuite, dans les rachetés par le Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, Dieu au-dessus de nous, en tant que Père au-dessus de nous, mais manifesté personnellement dans son Fils seul engendré de lui. Et ensuite, cela avec nous, parmi nous, et ensuite en nous, par le Saint-Esprit. Le même Dieu, dites Amen à haute voix. Et Alléluia. Car ça, c'est la vérité. Pas une deuxième et une troisième personne, mais Dieu agit personnellement à chaque fois dans tous les événements liés au salut. Et nous avons la grâce d'avoir part, par sa grâce, à cela. Celui qui repart dans l'Ancien Testament constatera ce qui s'est passé le jour du jubilé, de la réconciliation, de l'expiation. Vous pouvez, à la maison, lire les versets dans Lévitique 14 particulièrement, de Lévitique chapitre 23 particulièrement, pour constater ce que Dieu avait ordonné, c'est-à-dire que ce ne serait pas seulement que le sang soit appliqué, mais que aussi les membres, les différents membres, soient oints d'huile. Et ça, c'est aussi très, très important que nous puissions comprendre que la rédemption par le sang est simplement nécessaire. Mais l'onction avec le Saint-Esprit, en tant que confirmation de l'œuvre accomplie de la rédemption, est de la même manière aussi nécessaire. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que dans Lévitique chapitre 14, il est même parlé de ceux qui n'avaient même pas d'agneau de sacrifice, qu'on a pris soin d'eux et que eux aussi, leurs membres furent oints d'huile et de sang. Cela est à lire dans Lévitique chapitre 14. Je lis seulement les deux versets. Lévitique chapitre 14, à partir du verset 17 d'abord. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Donc, là où déjà le sang de la victime de culpabilité avait été appliqué, ensuite l'onction venait là-dessus, l'huile venait là où il y avait le sang. Nous avons ici une grande leçon. La rédemption a eu lieu par le sang de l'agneau versé. Déjà dans l'Ancien Testament, toujours de nouveau, nous voyons les sacrifices d'Holocauste et tous les différents sacrifices exprimés et mentionné dans le Lévitique. Mais ici, bien mes frères et sœurs, particulièrement, nous avons aussi adressé à vous, jeunes, le Seigneur sera avec vous. Soyez seulement attentifs, s'il vous plaît, à ce qui est écrit ici. L'oreille, ensuite, le pouce de sa main droite, et ensuite, orteil de son pied droit, pour que l'homme entier, d'abord l'oreille puisse être consacrée à la parole de l'Éternel, ensuite la main pour mettre en pratique ce que l'Éternel nous dit, ensuite le pied pour marcher sur le chemin de Dieu. L'homme entier est oint, le sang est appliqué, ensuite l'onction vient là-dessus. Répétons encore cela dans le même chapitre, nous lisons Lévitique chapitre 14, nous lisons ici, en fait, c'est presque la même chose telle que nous l'avons lu. mais je vais lire seulement le verset 25. Lévitique 14, verset 25. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. En allemand, qui se laisse purifier, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite, suit le verset 26. Le sacrificateur versera ensuite de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite, avec le doigt de sa main droite, 7 fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche. Devant l'Éternel ensuite, cela est répété dans le verset 28, la répétition, le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Donc là où il y avait le sang, celui qui s'est laissé purifier, là on met l'huile sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ensuite il est dit, à la place où il avait déjà mis du sang de la victime de culpabilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas seulement par le sang racheté, mais consacré à Dieu par l'onction. Pas seulement racheté, mais consacré. Pour que toute l'âme, tout le corps soit contrôlé par l'Esprit de Dieu, le racheté soit contrôlé par l'Esprit de Dieu, comme Paul pouvait dire, pour que votre esprit, votre âme et vos corps soient rendus purs, parfaits, oui, pour le retour du Seigneur. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Pour moi, de telles leçons de l'Ancien Testament qui déjà symbolisent et montrent en image ce qui se passe dans le Nouveau Testament, ou bien alors prédites comme en image ce qui se passe dans l'Ancien Testament, pour nous montrer que tout le troupeau racheté par le sang prête leur oreille, leurs pieds, leurs mains, tout est consacré à l'Éternel. Donc l'homme entier est mis à la disposition de Dieu par le rachat et par l'onction du Saint-Esprit. Donc écoutez la parole, la mettre en pratique et suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur par la pratique de la parole de Dieu. Mais nous pouvons suivre le Seigneur seulement par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction. Tel que le Seigneur l'a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, oui, en Samarite, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, même les 50 jours, le mot, la parole Pentecôte veut dire 50. 50. Celui qui l'utilise dans l'anglais Pentecost signifie 50. Et déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il devait 7 fois 7 semaines, 7 fois 7 semaines devaient passer, 49 devaient passer, et ensuite 20, l'année de jubilé, ensuite 20, le grand jour de l'expiation. On peut lire tout cela déjà dans les détails, dans Lévitique, déjà le chapitre 14, jusqu'à que le 50e jour vienne. C'était dans le 50e jour que tous pouvaient être libres. Le grand jour de réconciliation fut annoncé avec trompette et cela a eu lieu. Notre Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples après la résurrection et il a parler avec eux concernant les choses du royaume de Dieu. Et ensuite, encore 10 jours sont passés après sa montée au ciel. Et ensuite, le temps de la Pentecôte vint. Et le 50e jour vint, c'est ainsi que le ciel s'est ouvert et que la puissance de Dieu s'est infusée. Déjà dans tout l'Ancien Testament, cela a été montré en image ce qui allait arriver. Mais encore rapidement, en regard à Israël, nous sommes, cette fois-ci, nous ne sommes pas cette fois-ci allés à Bethléem, mais malgré tout, nous sommes passés. Et malgré tout, on doit savoir ce que le mot Bethléem signifie. Bethléem. Nous disons simplement Bethléem, nous disons Bethléem, mais c'est Bethléem. Bethléem. Beth, ça veut dire maison. Lérem, ça veut dire pain. Et ensuite, notre Seigneur dit dans l'évangile de Jean, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Oh, je souhaite parfois que tous ces noms authentiques avec leur signification directe soient écrits noir sur blanc dans notre traduction. Pas seulement Bethléem, mais maison du pain. La plupart qui font des pèlerinages vont à Bethléem. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? Ils ne trouvent pas de pain de Dieu. Ils trouvent de la tradition. Et encore une fois, de la tradition. Nous avons trouvé celui qui est le pain de la vie. Mais, comme il est écrit dans Michée, le chapitre 5, je crois, toi, Bethléem, tu n'es pas de toi la plus petite ville, de toi sortira celui qui sera Seigneur en Israël, roi. Et quand on lit tous ces versets bibliques de la Genèse, chapitre 3, au verset 15, et que on se représente ces choses, tout cela est l'accomplissement des Écritures. Déjà en commençant avec Genèse chapitre 3 verset 15, déjà avec le psaume 22, psaume 16, psaume 8, tous ces différents psaumes, le psaume 22, le psaume 16, le psaume 8, dans lesquels déjà à l'avance des choses ont été prédites, qui se sont accomplies. Même Golgotha est décrit ici, par exemple, dans le psaume 22, même ce qu'il allait dire à Golgotha a été prédit à l'avance dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Tout à l'avance a été écrit. Et malgré tout, autrefois, quand cela s'accomplissait, ils n'ont pas pu le reconnaître. Et ce qui est merveilleux, c'est dans le psaume 22. Psaume 22. Oui. Tu m'as placé dans le sein de ma mère. Psaume 22. Pas seulement le verset 2, mais ensuite, si on continue à lire, jusqu'on arrive au verset 10 et verset 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Psaume 22, verset 10. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ensuite, au verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 18, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Tout était déjà écrit à l'avance. De sa naissance, de la naissance de notre Seigneur, jusqu'à sa montée au ciel. Et malgré tout, ils ne l'ont pas reconnu autrefois et n'ont pas vu. Parce que les scribes et pharisiens ont interprété la parole, et dans l'interprétation se trouve le diable. Et c'est dans la révélation de la parole que se trouve Dieu. Et c'est ainsi que c'est comme ça encore jusqu'à aujourd'hui. Celui qui vit dans l'interprétation ne pourra pas reconnaître l'accomplissement de la parole de Dieu. Tous font qu'interpréter. Mais nous, ça ne le disons pas pour nous élever. Nous le disons pas avec orgueil, mais avec un cœur reconnaissant et humble. Dieu nous a accordé la grâce de ne pas seulement, selon la lettre, répéter la parole, mais de la recevoir révélée par le Saint-Esprit. Tous, vous savez que notre Seigneur a fait que parler en parabole, seulement en parabole. Et ensuite, il a pris ses disciples à lui et il a dit, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aussi dans Matthieu chapitre 28, le nom n'a pas été mentionné, mais il a été dit, enseignez tous les peuples à prescrire et à observer ce que je vous ai prescrit et baptisez-les dans le nom. Donc dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. Et imaginez-vous que notre Seigneur aurait là-bas déjà exprimer le nom. Alors, tous l'auraient su dans toutes les églises, dans toutes les communautés, dans toutes les religions. Tous l'auraient su et auraient baptisé correctement tout en restant dans leur doctrine et interprétation. Dieu a placé tout sur le fondement de la révélation. Et alors que au commencement du fleuve du Jourdain à Césarea, en Philippie, nous étions. C'est l'endroit le plus merveilleux, aussi l'un des plus merveilleux que nous avons à Jérusalem. C'est là-bas que le Jourdain commence. Et imaginez-vous, le Jourdain, la seule source de vie, la seule source d'eau, le seul fleuve duquel tout Israël vit. Et ensuite, pas loin de là, il y a l'endroit appelé Césarée de Philippie. Et nous avons aussi lu la parole de Matthieu 16 là-bas, parce que c'est dans cet endroit que le Seigneur s'est trouvé avec les disciples quand il a posé cette question, que disent les gens que je suis, qui est le Fils de l'homme? Et ils ont dit, les uns disent que tu es ceci, les autres tu es celui-ci. Et notre Seigneur, justement dans cet endroit, en Césarée de Philippie, qui dites-vous que je suis à ses disciples? Et ensuite vient la réponse. Et notre Seigneur ensuite dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est au ciel. Donc tout ce qui vient de Dieu vient par la révélation. Et cela est, nous voyons jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. En allemand, en anglais, c'est la révélation, le dernier livre de la Bible, avec les 22 chapitres. Donc, encore brièvement, en ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse nous accorder à tous un tel désir dans notre cœur, que vraiment nous puissions dire, Seigneur, je ne te laisse pas si ce n'est que tu me bénisses. Car par l'effusion du Saint-Esprit, en étant rempli du Saint-Esprit, c'est ainsi que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur. L'amour de Dieu a été révélé sur la croix à Golgotha. Alors, Dieu a tant aimé le monde, révélé l'amour a été manifesté, l'amour de Dieu a été manifesté sur la croix à Golgotha. C'est vrai, alors que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais dans les réconciliés, ensuite l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est déversé. Et ensuite, tout dans l'Église est fondé dans l'amour. C'est ainsi que nous remarquons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Même si je pouvais avoir la foi et connaître la langue des anges et tous les mystères, et que je pouvais déplacer des montagnes par la foi, mais que je n'ai pas l'amour, que je n'ai pas cette expérience-là de l'effusion du Saint-Esprit, je suis rien du tout, une cymbale qui retentit, si Dieu n'a pas pu déverser dans mon cœur par son Saint-Esprit l'amour. Toutes ces attributs. Et l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Nous l'avons expérimenté. Nous avons expérimenté des baptêmes du Saint-Esprit. Nous avons expérimenté que toute une assemblée fut remplie du Saint-Esprit. Nous avons expérimenté où en autre langue, un cantique, trois refrains ont été chantés. Et ensuite, en langue allemande, trois refrains ont été chantés dans une autre langue et ensuite interprétés dans la même mélodie en allemand. Nous avons expérimenté à la fin des années 40 et des années 50, nous avons expérimenté l'effusion puissante du Saint-Esprit. Et nous, je désire expérimenter encore ces temps. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons appelés à sortir et que nous soyons sortis, mais que Dieu puisse confirmer notre foi. Que réellement, nous expérimentons cette expérience qui est surnaturelle, qui est pour nous déjà, car le Seigneur a payé le prix. Et dans le baptême d'eau, nous confirmons que nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais dans le baptême d'esprit et de feu, c'est Dieu lui qui confirme qu'il nous a agréés. Notre Rédempteur, en tant que Fils de Dieu, a été engendré, est né. Mais lors de son baptême, vint la confirmation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Pas seulement Matthieu 3, verset 17, mais aussi Matthieu 17, verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, déjà bien-aimé, bien-aimé. Et nous sommes en tant que fils et filles de Dieu, dans le bien-aimé, agréable. Nous sommes établis dans l'amour de son Fils et nous avons le droit en tant que fils et filles de Dieu de recevoir l'Esprit de Dieu pour que par l'Esprit de Dieu nous puissions dire Abba Père et que la relation avec Dieu ait lieu. J'espère que nous ne mettons pas des fardeaux, mais simplement que nous puissions dire chaque bénédiction que Dieu a promis dans sa parole, toutes les bénédictions qui existaient dans l'Église primitive au commencement reviennent maintenant et sont expérimentées par les réconciliés et seront présentes réellement dans l'Église rétablie, restituée, telle que c'était au commencement et dans la foi parfaite, nous attendons cette expérience. Je lis un verset dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. Ici, Paul, avec l'onction, a parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Ici, nous lisons verset 18, et on continue. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Maintenant, suis le verset particulier. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Et celui qui nous a, oui, verset 22, lequel nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ici, nous avons un compte rendu, un résumé de ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament. Tout ce qui était sous le couvercle du sang, tout ce qui était sous le sang, fut ensuite oint d'huile et par l'onction consacrée à Dieu. C'est ainsi aussi avec tous les membres du corps de Jésus-Christ. Par le sang complètement racheté, justifié, il n'y a plus rien qui nous condamne, il n'y a plus de condamnation, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et par lui, nous avons tout. Nous sommes irréprochables devant Dieu, devant la face de Dieu. Mais nous sommes encore sur terre. Et nous avons besoin, comme en tant que rachetés, de la puissance d'en haut pour passer par toutes les épreuves, pour surmonter, comme c'est écrit dans Éphésiens 6, verset 10, pour surmonter les épreuves. Est-ce que je peux vous rappeler, alors que notre Seigneur fut baptisé, la Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et ensuite, toutes les épreuves se sont déversées sur lui. Et la puissance du Saint-Esprit était avec lui. Il est revenu du désert. Il est écrit dans la puissance de l'Esprit. Donc nous aussi, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour pouvoir passer par toutes les épreuves et atteindre le but et sortir de l'épreuve, surmonter l'épreuve, ressortir du désert. Et aujourd'hui, les gens fêtent la Pentecôte. Que le Seigneur nous accorde sa grâce de prononcer cela et de dire, Seigneur, tout est préparé. J'ai seulement besoin de le recevoir et de l'expérimenter personnellement. Cela t'appartient déjà. Encore dans Romains 2 versets et ensuite dans l'épître, la première épître de Jean. Dans Romains chapitre 5, nous lisons verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ensuite, nous avons dans Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu, fils et filles de Dieu sont par l'Esprit de Dieu, par le sang de l'agneau, rachetés et appartiennent à Dieu et sont ensuite remplis du Saint-Esprit. Et en tant que fils et filles de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Et dites-moi, s'il vous plaît, frères et sœurs, est-ce que tu aurais pu de toi-même venir dans la parole de la vérité? C'était et c'est le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute la vérité. C'est peut-être la raison que nous sommes reconnaissants. Dans l'Épître aux Romains, Nous avons ensuite l'exposé de ce que jusqu'à maintenant nous avons dit en insistant. Dans la première épître de Jean, le deuxième chapitre, 1 Jean chapitre 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. Et s'il vous plaît, ayez cela devant les yeux. C'était l'onction qui vint, qui se reposait sur tous les prophètes. La consécration, la révélation se reposait sur tous les prophètes. Ensuite, sur notre Seigneur et ensuite sur les apôtres. Et ensuite, sur l'Église primitive. Et ça, c'est l'harmonie céleste par l'Esprit de Dieu. Pas dans la lettre, mais dans l'Esprit de Dieu. Parce que la lettre, dans sa signification, nous a été révélée. Ensuite, au verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La main était trop faible.
Amen.
Qu'un mensonge a son origine dans la vérité. Tout mensonge est de l'interprétation, mais il n'y a aucune vérité là-dedans. Qui est menteur? Verset 22. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Est le Christ, est le oint de Dieu. Est le oint de Dieu. Celui qui renie cela est l'Antichrist. Qui nie le Père et le Fils. C'est ça. Ici nous l'avons. Qui renie que Dieu était en Christ. Qui renie le Père dans le Fils. Et ici ensuite, au verset 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ça, ce sont des paroles merveilleuses de Dieu. Alléluia. Verset 24. Ce que vous avez reçu, entendu dès le commencement, demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Avec cette parole, nous allons à Jean chapitre 17, verset 3. Pour qu'il puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, bien mes frères et sœurs, mais pour moi, la révélation de tous ces contextes différents qui appartiennent au plan de la rédemption sont si puissants, si merveilleux. Je pourrais essuyer des larmes, je pourrais crier de joie, dire Alléluia, je pourrais exalter Dieu pour le grand privilège qu'il nous a fait d'être enseigné par lui. Notre frère mentionnait l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, en Israël, qui a été imitée et placée dans le désert. C'était l'Arche de l'Alliance qui, selon Apocalypse chapitre 11, le dernier verset, au ciel va s'ouvrir. Nous avons réellement un accès direct à tout ce que Dieu a promis, à tout ce que Dieu a planifié. Nous avons l'accès à la compréhension, à tout. L'arche est ouverte pour nous. Tout ce que Dieu a révélé nous a été révélé et nous avons la grâce d'ordonner les choses à leur place dans la Bible. Et c'est ainsi que cela se confirme en nous par la grâce de Dieu, la parole de notre Seigneur. Celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. encore le verset 26 jusqu'au verset 27. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Les égarements ont déjà toujours existé. Mais il y a eu toujours la vérité aussi. Et celui qui est né de Dieu, qui est né de la vérité, qui est de la vérité, il écoute la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité. Il n'écoutera aucun mensonge. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction que vous avez reçue de lui demeure, en allemand, demeure continuellement. Et c'est pas comme ça, nous sommes ouin aujourd'hui et demain, nous sommes pas ouin, non. Demeure constamment, continuellement en vous. Tel que nous demeurons en lui continuellement, ainsi son onction demeure continuellement en nous. Nous demeurons dans la parole, il demeure en nous. Et nous sommes continuellement sous l'onction, sous la conduite du Saint-Esprit. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Non. Comme son onction vous enseigne, pas ton onction, mais son onction. Dans tout le mouvement charismatique dans le monde entier, desquels 550 millions existeraient de membres, il est parlé d'onction, il est parlé de don de l'esprit, il est parlé de tous ces différents sujets. Mais ils disent ce qu'eux-mêmes ils ont à dire, mais ils ne disent pas ce que Dieu dans sa parole a dit. Et ici, il est écrit, tel que son onction vous enseigne, pas tel qu'une onction quelconque ou bien votre, mais son onction vous enseigne toutes choses. Et il est écrit ici qu'elle vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'a point un mensonge. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça, c'est merveilleux. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à ce verset. De ce que toutes ces paroles en nous, par nous, s'accomplissent, sont devenues vraies. Et jusqu'à la fin, demeure vrai jusqu'à la fin. Le Seigneur prendra soin. Je lis encore un verset pour que vous puissiez savoir ce qui se passera et qui est-ce que vous êtes et qui est-ce que nous sommes. 1 Thessaloniciens chapitre 2, et ici nous lisons seulement le verset 14. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14. J'aurais dû annoncer le verset 19 en fait. 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne venons pas seulement ici pour évangéliser et pour repartir, nous venons avec le message divin maintenant, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour permettre la préparation des croyants par la prédication, pour que le Seigneur puisse nous préparer, et que en nous tous qui veulent prendre part à l'enlèvement et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, que nous puissions adresser à ces croyants-là tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole et a promis. Paul n'a pas seulement comme ça considérer ceux qui l'écoutent comme une prédication auquel il vient et il part, mais en tant que des frères et sœurs qui sont prêts à être prêts lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de ça. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas comme ça de venir visiter une église, tenir une prédication, avoir une réunion comme ça. Il s'agit de la préparation pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tel que Paul a dit, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Qu'est-ce que nous avons? De quoi est-ce que nous pouvons nous louer? Non, seulement de ce que Dieu nous a fait grâce et que Dieu, dans sa parole, s'est révélé à nous et nous a révélé sa parole et qui nous a fait miséricorde, qui nous a montré ses desseins dans ce temps. Et bien sûr que s'ajoute à cela la promesse où il a dit qu'il enverra un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et en cela aussi, nous différons de tout ce qui existe sur terre, de tout ce qui existe sur terre. Que le Seigneur soit avec nous. Que ce jour ne soit pas seulement un rappel de la Pentecôte, il y a 2000 années d'ici, mais en même temps, un désir profond dans notre cœur. Que de tout notre cœur, nous puissions dire qu'un désir profond soit appelé à l'existence dans notre cœur. Que nous puissions dire, tel que Jean-Baptiste l'a prêché, c'est encore la même prédication aujourd'hui. Je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Il a son vent entre ses mains. Il nettoyera son air. Et il emmagasinera son blé dans le grenier et la paille sera amassée. Tout est dans le chapitre de Matthieu 3, dans la chronologie exacte, telle que c'est écrit. C'est ainsi que ça va se passer. Aussi en ce qui concerne Israël, il soupire après la venue du Messie. Nous étions aussi au mur de lamentation. Nous avons regardé comment est-ce que les Juifs prient et les hommes, comme c'est écrit dans Exode et dans Deutéronome, ils doivent se lier, la confession juive, n'est-ce pas, la confession de l'Éternel, sur leurs mains, sur leurs fronts, sur leurs bras, ils le font, vraiment. Et je crois que elle est à peu près 2,50 m, elle fait 2,50 m, la corde avec laquelle il se... Non, c'est comme un bandeau avec lequel donc il se lie à la main et au front. Shmar Israël, donc écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un seul, et tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de lui. Tous ces versets que Dieu a prononcés sont fixés dans ce petit rouleau sur leur front, et il est porté par les hommes et aussi sur leur cœur et sur leurs bras. Et c'est la douleur de ce qu'ils n'ont pas reconnu la venue du Messie. Et c'est ainsi qu'il est écrit, la partie élue, elle l'a atteint. Les autres ont été endurcis. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la différence? Il y a une différence parmi les païens? Non, c'est la même chose. Les autres sont endurcis et il y en a. Et la partie élue a la grâce de reconnaître ce que le Seigneur fait et de ne pas s'endurcir. Et bien, frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, nous prêtons l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église et que nous ne nous endurcissons pas. C'est ainsi qu'il est écrit que la partie élue atteindra le but. C'est écrit dans Romains 11. Nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit et nous recevons ce que l'Esprit dit. Nous sommes d'accord. Et c'est ainsi que nous sommes conduits dans toute la vérité par le Saint-Esprit, et l'onction nous révèle toutes choses en tant que troupeau racheté par le sang. Sous l'onction du Saint-Esprit et la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, nous nous tenons par la grâce de Dieu. À lui, notre Dieu fidèle, soit l'adoration pour tout, particulièrement pour ce qu'il a fait en nous. et béni soit Israël au nom du Seigneur. Amen. Nous voulons nous lever et remercier le Seigneur. Chantons quelques chœurs. Je l'aime, je l'aime. Que cela soit une heure de consécration, de recueillement dans la directe présence du Seigneur, telle que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, nous l'avons lu, tout le corps doit être consacré au Seigneur comme son temple. Ce que nous faisons, où est-ce que nous prêtons l'oreille, où est-ce que nous allons? Que tout soit ordonné à Dieu, soumis à Dieu et soit selon sa parole. Nous voulons de tout notre cœur croire que Dieu nous a conduits jusqu'ici et il achèvera son œuvre en tous ceux qui maintenant le croient. Et nous chantons vraiment maintenant dans la foi, ce cœur croit seulement, et aussi Jésus est ici, acceptez-le, Jésus est ici, acceptez et remerciez le Seigneur pour cela. Nous voulons persévérer dans la prière, nous recueillir dans la présence du Seigneur. Si nous avons des requêtes particulières, nous allons ensemble les apporter devant le trône de la grâce de Dieu. D'abord, nous allons remercier le Seigneur, notre Dieu, pour le salut, par le sang de l'agneau, par l'onction du Saint-Esprit, pour l'onction du Saint-Esprit, car c'est l'Esprit qui conduit dans toute la vérité le troupeau racheté par le sang. Aussi, toutes les autres requêtes, nous allons les apporter au Seigneur aussi, que ce soit qu'elles soient pour vous personnellement ou bien alors pour quelqu'un d'autre qui sont dans vos cœurs. Nous allons apporter tout au Seigneur il exauce les prières, car c'est ainsi qu'il a dit, là où deux ou trois deviennent un et demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Demandez et vous recevrez, frappez et il vous sera ouvert. Nous avons toutes ces promesses et nous nous plaçons sous ces promesses et nous les croyons sur ces promesses. Je vous ai demandé qui voudrait lever la main. Partout, 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 partout. Prions, grand Dieu, nous venons devant ta sainte face. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour toutes les images, pour les symboles et pour la réalité divine. Nous te remercions pour Golgotha. Nous te remercions pour la rédemption, pour la réconciliation, pour le pardon. Nous te remercions pour le plein salut. Et nous te demandons maintenant, Seigneur, quoi que ce soit, que seraient les requêtes selon le corps, l'esprit ou l'âme, nous te l'apportons. Et tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, pas à un prédicateur. Nous venons à toi et nous t'invoquons. Tu connais les difficultés. Bénis, exauce. Et aussi là où il y a des difficultés corporelles, ô grand Dieu, détends ton bras. Et guéris, confirme toi-même ta parole, Seigneur. Bénis tous, et aussi ceux qui sont en ligne, dans tous les pays voisins, dans le monde entier. Bénis ton troupeau racheté par le sang, ton épouse, l'épouse de l'agneau. Bénis nos oreilles, pour qu'ils puissent écouter, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Bénis nos mains, pour qu'ils puissent vivre à ce que tu ordonnes. Que tu puisses bénir nos pieds, pour qu'ils puissent marcher sur tes voies. Ô bien-aimé Seigneur, nous nous consacrons à toi aujourd'hui, entièrement, et te demandons, sois avec nous, à partir d'aujourd'hui, comme jamais auparavant, d'une manière extraordinaire. Accorde-nous une nouvelle foi, une nouvelle confiance en toi, car tu as dit, je suis auprès de vous tous les jours jusqu'aux extrémités de la terre. Quoi qu'arrive, tu es avec nous. Ta parole, ton bâton est notre consolation. Nous te remercions aussi pour cette réunion et te demandons une bénédiction qui demeure pour toujours sur nous, pour tous. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La chorale avait déjà chanté. Nous voulons malgré tout chanter chantons le numéro 21. Seulement les quatre premiers strophes. Thank you. Je sens. Je dois t'avoir. Je sens. Je dois vivre pour toi. Mon lieu de repos est en toi. J'adore la puissance de l'amour qui s'est révélé en Jésus. Je me donne entièrement à cet amour, moi un ver, être aimé ainsi. Amen. Nous ne vivons pas dans une obligation. Nous vivons dans la liberté des enfants de Dieu. Dans la grâce de Dieu qui nous a été accordée. Il n'y a qu'une seule obligation dans le Nouveau Testament. Qu'une seule obligation. C'est écrit dans Jean. Chapitre 3. Vous devez naître de nouveau. Parce que vous devez. Pas vous pourriez, vous devez. C'est une obligation. Tout le reste nous est accordé librement. Et parce que nous sommes nés de nouveau, ce n'est plus tu dois, tu ne dois pas. Non, rien. Nous avons la grâce de vivre la vie de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un souhait particulier que mon vieil ami de Osnabrück, qui a entrepris avec moi beaucoup de voyages, vient devant et toi remercie le Seigneur avec nous. Et celui qui veut se joindre peut venir. Nous sommes bien en avance. Aujourd'hui, vous pouvez venir. Levons-nous. Qui m'a accompagné au Pakistan, en Inde, qui m'a souvent accompagné. Que Dieu te bénisse. Nous te remercions de la profondeur de notre cœur pour ta sainte parole, de ce que tu es présent et que tu parles avec nous. Tu nous as bénis puissamment. Qu'est-ce que nous serions sans toi? Seulement avec toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Je te remercie pour toutes les révélations, pour ta parole. Pour Frère Franck qui peut venir régulièrement, ton serviteur. Et tu es avec nous, tu nous bénis par ta parole. Nous voulons te remercier. Tu es avec nous par ta grâce, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, Je te remercie de tout mon cœur pour ta parole cet après-midi. Seigneur, je te remercie pour la réunion particulière que nous avons expérimentée. Tu es passé par nos rangs. Tu nous as bénis dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme. Cela a eu lieu par notre foi. Et nous croyons que nous t'appartenons. Nous te remercions de t'appartenir. Nous sommes tes fils et tes filles. La parole de la croix est une puissance de Dieu. Je te remercie de tout mon cœur. De ce que tu nous accordes par ta grâce, que dans ce temps de la fin, en tant que des hommes saints, nous nous tenons devant toi pour que tu puisses, avec joie et avec le Saint-Esprit, nous remplir. Accorde aussi que nous puissions expérimenter le scellement, que l'amour de Dieu tel que nous l'avons entendu soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit pour être manifesté parmi nous. Je te remercie de tout mon cœur de ce que tu nous conduis sur le chemin du ciel jusqu'à aujourd'hui, d'une manière merveilleuse. Tu nous as conduits et tu nous as gardés sur le chemin du ciel. Et tu seras avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, accorde-le-nous que ta miséricorde et ta grâce soient avec nous en tout temps. Bénis-nous tous maintenant d'une manière comme jamais auparavant. Et permets-nous de repartir avec ta paix, ta bénédiction dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons proche de la maison, proche de la maison. Amen. Amen. C'est ainsi que ce sera. Soyez remis de la grâce du Seigneur. Dieu voulant, le 7 juin, je vais au Cuba. Nous aurons tout un nombre de réunions là-bas, dans l'église centrale des Baptistes. Priez pour que Dieu appelle les derniers à sortir. Ensuite, j'irai en Amérique du Sud. Je reviendrai vendredi tard et ensuite ce sera de nouveau le week-end de Zurich. Nous serons en temps à Paris dimanche après Krefeld. Nous serons à Paris et ensuite nous continuerons le voyage. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.